dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, quatre mains bien pesées, autour d'un puits creusé.
Une part de cake, François ?
Oui, on a forcément des frissons en entendant cela aujourd'hui, jour des obsèques de Michel Legrand. Mais c'est aussi cette force que les grands créateurs ont, c'est que ils sont là avec nous parce qu'on entend ça. Et c'est Michel Legrand, et c'est Michel Legrand vivant. Vous étiez, Philippe Ronvy, en train, dans le studio, de vous balancer au son de cette musique. Celle qui vous a accompagné, bercé également votre enfance, vous qui êtes aujourd'hui compositeur de musique, de films notamment. L'héritage Legrand, c'est quelque chose de très fort.
Oui, oui, je suis très ému d'être là aujourd'hui, honoré aussi d'être l'accompagner dans cette journée qui est un peu triste. Mais comme vous le dites, la musique le rend vivant, le rendra toujours vivant. Et donc ça m'a accompagné depuis mon enfance, sa musique, à tous les stades. Ça m'a donné envie de faire ce métier aussi. Ça a été une espèce de guide régulier dans mon parcours.
Et on verra avec vous justement tout ce qu'a été l'apport de Michel Legrand. Il est avec nous en studio aujourd'hui. Dois-je le présenter ? Bonjour Patrick Cohen.
Bonjour François.
Le présentateur du très beau diptyque sur Europe 1, le samedi matin, 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine, dimanche matin, 9h, 10h, c'est arrivé demain. Et Patrick Cohen, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que vous avez eu la chance, d'assister à ce qui restera comme le dernier concert de Michel Legrand à Paris, et vous avez réalisé l'une de ses dernières grandes interviews, c'était au mois de septembre dernier sur Europe 1.
Oui, parce que Michel Legrand a eu une incroyable actualité pour ses derniers mois d'activité, ses derniers mois de vie, parce qu'en quelques mois, il y a eu l'apparition de ses mémoires, j'ai le regret de vous dire oui, avec Stéphane Le Rouge, qu'on va entendre, je crois, dans quelques instants. C'était à la rentrée, l'apparition d'un coffret de 20 CD d'une anthologie chez Decca, où on voit qu'il a touché à tous les genres, à tous les styles de musique. Il a vraiment un palmarès et un générique incroyable de ce point de vue-là. Ce concert à la Philharmonie, qui était une grande première dans l'auditorium Pierre Boulez.
On y reviendra tout à l'heure.
La version scénique de Podane au Théâtre Marigny, la ressortie d'Yentl, le film qu'il a fait avec Barbara Streisand, la musique du dernier film d'Orson Welles, 45 ans après. Enfin voilà, tout ça
il
était...
Il a fait tout le sommaire de l'émission, c'est ça le talent, de Patrick Cohen. Et on entendra surtout cette voix aussi, même s'il s'exprimait mieux avec des notes qu'avec des mots, mais les grands moments d'émotion que vous avez transmis sur Europe 1 dans cette interview qu'il vous avait accordée au mois de septembre dernier. Il est avec nous au téléphone, et vous l'évoquiez Patrick il y a un instant, Stéphane Le Rouge, bonjour Monsieur Le Rouge.
Bonjour à tous les trois.
Merci d'être avec Stéphane. Nous sur Europe 1 pour cette journée, pour vous également lourde. Vous allez tout à l'heure vous exprimer sur la scène du Théâtre Marigny, où le monde du spectacle va rendre un hommage avant les obsèques cet après-midi au Père Lachaise, et avant une cérémonie à 11h30 d'ailleurs à la cathédrale orthodoxe ce matin à Paris. Mais vous êtes l'auteur de ce livre assez étonnant, un livre, on va dire, à quatre mains. Vous êtes l'un de ceux qui a le plus accompagné finalement Michel Legrand.
En tout cas, oui, il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont très très bien connu, mais c'est vrai qu'on a réussi à nouer ce rapport de confiance et à un moment donné de sa vie peut-être, où il avait pris cette décision, il avait changé d'avis en tout cas sur le fait de se raconter ou de raconter les vies de sa vie, parce que pendant des années il résistait justement à s'immerger dans son propre passé et à laisser cette trace sous forme de livre, et finalement notre compagnonnage sur des rééditions d'albums, de bandes originales notamment, a fait qu'on s'est dit si on prolongeait l'aventure, et là il s'est dit j'ai peut-être l'âge enfin de me raconter, et donc effectivement il a parlé le livre, je l'ai écrit, il en a fait le fond et moi simplement la forme.
Michel Legrand a peut-être pâti en France de son de ce qui est son vrai génie et de son éclectisme, celui finalement d'une culture qui va des symphonies au jazz. Il a voulu tout rassembler en un art qui est assez unique finalement.
Oui, mais je pense, c'est vraiment ma conviction profonde, je pense que la force, la modernité, la grandeur presque de Legrand, c'est d'avoir fait ce choix de ne pas choisir et de se dire qu'entre finalement l'enseignement du conservatoire, notamment d'Henri Chaland pour l'harmonie, de Nadia Boulanger bien sûr, d'un côté, et puis d'un autre côté ce séisme, cet électrochoc du jazz moderne après-guerre, et que voilà, il voit deux voix face à lui, il se dit mais non, finalement ces deux voix VOIE, je vais les rassembler en une voix, VOIX, la mienne, et tout ça en plus complété, enrichi ensuite par la chanson, la variété, la pop musique, les musiques du monde, notamment les folklores d'Amérique du Sud, brésiliens, cubains, qu'il passionnait, voilà, toutes ces cultures-là, et il en a fait la synthèse.
Alors, un petit mot quand même, qui c'est celui, puisque vous devez nous quitter malheureusement, Stéphane Lerouge, sur les dernières heures, les derniers jours que vous avez vécu à ses côtés.
En fait, je l'ai juste visité la semaine dernière à deux reprises. Sa femme, Macha Meryl, était là en permanence à ses côtés. Et c'était très, très beau parce que le coffret dont Patrick Cohen parlait à l'instant était dans sa chambre d'hôpital. Et Michel, justement, quand on concevait des projets de réédition, c'était vraiment un homme aimanté par le futur, quoi. Il se noyait dans une frénésie, une boulimie de projets. Enfin, il rêvait en avant. Et le passé, il intéressait assez peu. Donc, quand on concevait des projets ensemble, il me faisait confiance. Il écoutait deux, trois choses, s'il y avait des montages, mais pas plus. Et là, dans cette chambre d'hôpital, il y avait un petit lecteur CD, il y avait un casque, et il avait demandé à réécouter chronologiquement plusieurs albums du coffret, comme un dernier coup comme ça, un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Et Macha Meryl a demandé que la cérémonie de tout à l'heure à Marigny s'achève, se termine sur la dernière chanson que Michel a écouté, et qui est une version piano-voix d'une chanson qu'il avait écrite en 72 avec Jean Dréjac, qui était un de ses grands auteurs, et qui s'appelle « Dans le même instant ». Et c'est une chanson sur la vie dans son côté presque cyclique. Et voilà, c'était la dernière chanson que Legrand ait écoutée à l'hôpital, ce sera la chanson qui l'accompagnera tout à l'heure à la fin de la cérémonie.
Et il y a Legrand qui sera avec nous, toujours vivant, plus que jamais. Merci Stéphane Lerouge, alors que vous allez prononcer un discours dans quelques minutes, de nous avoir accordé malgré tout ce temps sur Europe 1. On vous souhaite à la fois bon courage pour cette journée. On espère vous entendre bientôt sur Europe 1 pour reparler du Michel Legrand, toujours vivant pour nous. Merci en tout cas.
Merci à tous. Merci.
Préparez votre pâte dans une jatte plate. Sans plus de discours. Allumez.
Et le tour de la question se poursuivra dans un instant. Jusqu'à 11h, nous sommes avec François Clauss, avec vous François.
Il n'aurait pas
invités.
Aimé qu'on dise le tour de la question, Michel
C'est vrai.
Laurent, tellement lui, il avait un univers
C'est
vaste
vrai.
Autour de lui.
Vous pouvez d'ailleurs, n'hésitez pas à témoigner ou nous faire part de votre amour pour ce grand compositeur. 39-21, 50 centimes la minute, vous laissez un petit message et on vous rappelle bien sûr. Et puis il y a les réseaux sociaux, hashtag Europe 1 sur Twitter.
Vous aurez reconnu, bien sûr, les Moulins de mon cœur, la musique du film L'affaire Thomas Crown. Le film, raconte-t-on, était au point mort, au montage. Il a fallu le déclic musical. En attendant, c'est la porte d'entrée de l'Amérique qui s'ouvre pour Michel Legrand, avec l'énorme succès de cette chanson. Ce qu'on ne dit peut-être pas suffisamment en France, Philippe Bromby, c'est justement ce talent, alors, on est le jour des hommages, génie, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin, 9 ans, il était au conservatoire, Michel Legrand, il y restera longtemps, et c'était un surdoué de la musique.
Oui, c'était un... Oui, génie, oui, n'ayons pas peur des mots. Il y a... À un moment donné, il faut reconnaître l'évidence. Et au-delà du talent, du don pour la musique, il y avait aussi un prodige, aussi intellectuellement, et quelqu'un qui était... qui a presque été choisi, j'ai l'impression, par la musique pour l'incarner. Alors, toute sa personne était musique. Donc, il avait la voix pour. Quand on écoute même certaines chansons comme Elle a, Elle a pas, où il chante les deux, à la fois la voix de tête presque de haute contre et à la fois celle du duo avec le baryton qui descend très bas. Même techniquement, il avait des moyens qui étaient faits pour être un musicien. C'était assez incroyable.
Et il était, Patrick Cohen, il était surdoué au piano, il était compositeur, il était orchestrateur, et cette multitude de talents, il les a finalement rassemblés dans une chose, le cinéma à un moment donné.
Et pour un profane comme nous, c'est très impressionnant, et je lui avais d'ailleurs, lors de l'interview qu'on a faite ensemble fin août, je lui avais dit, employé ce mot surdoué, il m'avait dit mais non, je ne suis pas un surdoué, ça coule,
c'est normal.
Ça coule tout seul, ça coule naturellement, oui. Il réfutait l'expression surdoué, alors que voilà, c'est quelqu'un qui était capable, alors là je parle devant un spécialiste, Philippe Rombi, il écrivait à la table comme disent oui, les musiciens, oui, c'est-à-dire oui. Il écrivait oui. des partitions entières pour tous les instruments, les oui. orchestres, etc. Il avait cette formation d'orchestrateur, d'arrangeur, etc. Et effectivement, il a touché à tous les thèmes, je crois qu'il n'y a pas d'exemple autre de quelqu'un qui est touché au jazz, au classique, puisque c'était son ambition à la fin, la variété, il a fait énormément d'arrangements, la musique de film, il a mis en scène aussi, Un été 42, il a été metteur en scène, chef d'orchestre évidemment, chanteur, vous le rappelez, justement, il avait ce talent de swing et de chant naturel, et dans cette anthologie de disques, dans ce coffret qui rassemble une partie seulement de sa carrière, c'est pas une intégrale, hein, c'est une anthologie
oui,
simplement.
Il y en avoir 40, 60...
Imaginez un coffret où on croise à la fois Michael Jackson, Dalida, Nougaro, Miles Davis, les Schtroumpfs, le Dauphin, parce qu'il a fait aussi des bandes originales de dessins animés. Enfin, c'est quand même une palette extraordinaire.
C'est exceptionnel. Et quand on lui reproche, on a vu ça apparaître ici et là, une musique parfois facile, un peu sucraillée, un peu... j'imagine ça vous hérisse quand vous
oui,
entendez.
Oui, oui, complètement.
Comme
oui.
si en France, on ne reconnaissait pas quelqu'un qui veut justement toucher à tous les domaines.
Mais non, mais il avait ce jeu, pour lui c'était un jeu la musique, mais je comprends ce que vous disiez Patrick tout à l'heure sur maintenant c'est normal quand il disait oh non je suis pas doué, c'est normal parce que quand on commence à improviser au piano depuis son enfance, moi j'ai découvert ça assez tard grâce au livre de Stéphane
Le Rouge là, qu'on avait au téléphone il y a un instant. Ouais.
Voilà, de pouvoir comprendre comment il était arrivé là, et ça m'a troublé parce que quand j'ai commencé, j'ai eu le même approche avec la musique. C'est ce qui nous lie un petit peu, c'est ça, c'est-à-dire que c'est
vous
un besoin.
Quand on a parlé hier au téléphone, vous me racontiez, il fallait voilà, il y avait Bach, il y avait Brahms, il y avait et vous de votre côté, vous alliez faire du Michel Legrand sur votre clavier.
Oui, c'est ça. J'avais un piano à la maison, j'avais pas encore pris de cours de piano, j'étais tout ma jeune enfance, et j'avais besoin de refaire tout ce que j'entendais à la télé, les génériques de films, d'oreilles. Et en fait, j'avais. Mais moi, je croyais que c'était normal. Pareil, après, quand j'ai commencé à composer, bon, ben voilà, je me suis dit, composer, c'est prendre un crayon et puis un conducteur d'orchestre de 24 ou 40 portées, et puis remplir les mesures. Donc, j'ai toujours fait ça à la main. Et pour moi, c'était normal. Mais Michel Legrand, si vous voulez, il m'a juste montré, il m'a juste donné envie et montré que tout était possible. C'est-à-dire que composer un concerto, c'était bien, mais composer une chanson, c'était bien aussi. C'était pas, voilà, il n'y avait pas de frontière entre faire du jazz, faire de la musique dite légère. Qu'est-ce que ça veut dire, légère? Faire de la bonne musique, surtout. C'est ça. Y a pas, pour moi, il n'y a pas de
frontière.
Et
c'est bien pour ça qu'on lui rend hommage aujourd'hui. Voilà. Parce que, et on aura tout à l'heure des auditeurs au téléphone, à Patricia notamment, qui nous appelle, de voir comment, finalement, les mélodies de Legrand nous ont accompagnés générationnellement depuis tant de temps, et qu'elles vont rester durablement. Et c'est là
c'est
qu'on mesure.
Pour moi, il n'y a pas de noblesse dans... un concerto plus que dans le thème des Moulins de mon cœur. Pour moi, c'est un tout.
Oui, 39-21, si tous les auditeurs qui nous écoutent veulent évoquer aussi le grand Michel. Michel Legrand, 39-21, 50 centimes la minute. Vous nous laissez un petit message, on vous rappelle bien évidemment. Et puis il y a les réseaux sociaux, la page Facebook d'Europe 1 ou encore Twitter avec le hashtag Europe 1. Le tour de la question revient dans un instant avec vous François Claus. Ce matin sur Europe 1, on prolonge l'hommage à Michel Legrand dans le tour de la question avec vous François Claus, mais aussi avec vos invités, le compositeur Philippe Rombi, quelqu'un que l'on connaît bien ici, un passionné de Michel Legrand, le journaliste Patrick Cohen, et puis avec nos auditeurs.
Avec nos auditeurs, notamment Patricia qui nous appelle de Paris. Bonjour Patricia.
Patricia ?
Allô ?
Oui,
oui
là.
Patricia, vous étiez peut-être en train de réécouter les moulins de mon cœur au moment où on vous interrogeait. Il vous a accompagné, Michel Legrand ?
Oui, 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 il m'a accompagné. C'est vraiment une personne qui était fantastique, qui avait des paroles, des chansons, la musique, les mélodies. Tout était beau, était...
On vous sent très ému aujourd'hui. Notre but à Europe 1 est justement de le faire revivre parce que sa musique vit très fort. Philippe Rombi, vous évoquiez l'idée d'une forme de jaillissement pour raconter le talent spécifique de Michel Legrand.
Oui, on aurait dit qu'on ouvrait une boîte magique et inépuisable. Et que de cette boîte sortaient des volutes comme ça, des espèces d'élan, de feux d'artifice musicaux, d'harmonie, d'accords renversants. Voilà, c'est ce qui me rend le plus triste, c'est de voir qu'on ne pourra plus en avoir de nouvelles. On a toutes, heureusement, tellement de choses.
Que cette boîte musique là est déjà très riche. Ouais.
Voilà, que cette boîte ne s'ouvrira plus alors qu'on savait qu'il pouvait nous surprendre à combien de temps encore ? C'était inépuisable.
Jacques Demy avait eu exactement le même sentiment. Jacques Demy qui a été son frère. Enfin, il y avait un sentiment de fraternité entre eux qui a travaillé avec lui pendant plus de 10 ans.
Je renvoie aux extraordinaires photos du dernier numéro de Paris Match où on voit les photos du tournage des Demoiselles de Rochefort. Les deux hommes ensemble, on le voit au piano, on voit Deneuve et Françoise d'Orléac qui est en répétition. Très très beau numéro.
Et Demy disait, Michel Legrand n'est pas un musicien, c'est une fontaine à musique. Voilà, c'est exactement la même image que vous utilisiez de la boîte à musique. Effectivement, une fontaine. Et je crois qu'on l'entendra tout à l'heure dans une séance de travail en train d'essayer de créer, d'inventer des mélodies justement.
Voilà ce qu'on peut dire pour le moment, on va y revenir parce qu'il y a aussi l'extraordinaire carrière dans le monde du jazz et on va entendre dans quelques instants, trop court forcément, mais un ou deux duos, Marlène marquant.
Oui, Michel Legrand. Michel Legrand, on rappelle que ses obsèques auront lieu dans une heure environ à Paris. L'occasion donc de lui rendre hommage encore une fois. N'hésitez pas à nous laisser un petit message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou si vous souhaitez intervenir comme notre auditrice Patricia à l'instant, 39-21, vous nous laissez un petit message et on vous rappelle.
C'est presque un crime de couper l'immense Miles Davis avec Michel Legrand, Philippe Rombi, à l'époque où il s'engage, parce que c'est quasiment un engagement dans le jazz, c'était pas évident. Et même, il a eu des difficultés sur un certain nombre de ses premiers concerts en France. Lui qui aurait pu faire le Prix de Rome, qui aurait pu jouer du Bach, du Brahms, du Chopin toute sa vie. Il y a le coup de foudre jazz et cette extraordinaire liste de duos de Coltrane, on entendra tout à l'heure le pianiste Bill Evans aussi et sa relation avec Michel Legrand, c'est une carrière exceptionnelle dans le domaine du jazz.
Extraordinaire, oui, c'est vrai que ce concert de Dizzy Gillespie qui l'a complètement subjugué et qui lui a révélé un autre aspect de la musique. Et c'est vrai que dans son parcours très classique avec Nada Boulanger, c'est un petit peu trahir un certain académisme que tout d'un coup être séduit par le jazz. Je vois très bien ce que ça a pu donner à l'époque en plus. Pour faire peut-être un jeu de mots rigolo, on pourrait dire qu'il était un petit peu bigame, gamme, à la fois
joli,
classique et à la fois de jazz, et parce que...
Ou trigame, parce qu'il y avait la variété aussi, parce parce que son premier boulot, c'était d'arranger Maurice Chevalier à l'Alhambra. Il le raconte, c'est il fait ça. Des arrangements un peu jazz. On lui dit, le public n'aime pas beaucoup, il fait une première partie. Enfin, c'est quand même c'est assez extraordinaire. Quoi. Dès la sortie du conservatoire, il a un pied dans le classique parce qu'il en vient, il a un pied dans le jazz parce qu'il découvre, il admire effectivement Gillespie, le boulevard.
Mais on le ressent dans ses musiques.
Et il travaille pour Maurice Chevalier.
On sent dans ses musiques qu'il y a toujours cette espèce de la femme et la maîtresse, quelque part, réunies dans la même musique. Et on écoute Le Messager, et on peut voir que quelqu'un comme moi qui a fait des études classiques, on peut y voir Schubert, on peut y voir Jean-Sébastien Bach. Et puis même dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure de l'affaire Thomas Crown, même dans l'arrangement, dans l'orchestration, on peut entendre quelques volutes au début de bois qui font penser à Daphnis et Chloé. Et puis tout d'un coup, vous avez un clavecin baroque. Et puis après, il y a la rythmique qui rentre et hop, c'est son côté jazzy qui revient. Donc c'est ça qui est
formidable. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette complexité que vous évoquez, tout le monde dit « moi, j'écoute pas du jazz, c'est trop complexe, les quatre temps ». Lui, il a amené une forme de simplicité qui nous touche directement au cœur.
C'est ça le génie, pour moi. C'est-à-dire, c'est d'arriver à toucher le cœur des gens sans mode d'emploi, mais avec une exigence, savante derrière. Si on gratte un peu, et on a une deuxième lecture, et on voit que c'est fait avec goût, avec science.
Et avec
mais
talent.
C'était en lui, ça. C'était pas forcé.
Nous avons retrouvé Patricia au téléphone. La liaison était tout à l'heure un petit peu compliquée. Désolé, Patricia, de vous avoir un petit peu coupé. Vous évoquiez cet enchantement que Michel Legrand vous a procuré.
Oui, bien sûr. Et puis, en plus, c'était un grand compositeur. Il n'était pas que un chansonnier, comme on dit. Il était vraiment quelqu'un qui vivait que pour ça, quoi. Et en plus, il y a autre chose dans sa vie, c'est cette belle histoire d'amour avec ma chère Marie. Là.
Ah, extraordinaire, oui.
Extraordinaire.
Et ça vous a touché aussi, vous?
Ah oui, bien sûr. Retrouver comme ça.
Ils se sont rencontrés
l'amour.
Il y a 50 ans, ils n'étaient pas libres ni l'un ni l'autre, et puis ils se sont mariés, il avait 84 ans.
Voilà, c'est ça qui est sublime. C'était en fait un grand amoureux et aussi, comment dirais-je, quelqu'un de spontané malgré tout, parce qu'il était aussi bien avec les jeunes qu'avec les anciens, il avait une joie de vivre en fait aussi, une très grande joie de vivre.
Et cette joie de vivre était très communicative. Merci beaucoup pour votre témoignage, Patricia. Nous allons poursuivre.
Je vous en prie, au revoir.
Nous allons continuer à faire vivre, c'est le but aujourd'hui, le jour de ses obsèques, Michel Legrand.
Jacques Demy disait de lui que c'était une fontaine à musique, comme nous le rappelait tout à l'heure Philippe Cohen. Michel Legrand dans le tour.
Patrick, ouais.
Patrick, qu'est-ce que j'ai dit?
Philippe, mais c'est pas grave.
C'est vrai, pardon. Okay.
C'est l'émotion,
oui. Que voulez-vous, ou la trompette de Miles Davis, je ne sais pas. Oh, jusqu'à 11h en tout cas sur Europe 1, on est avec vous François Claus pour parler de ce prodige musical. Vous êtes entouré donc, on le rappelle, du compositeur de musique de film Philippe Prombi et du journaliste Patrick Cohen. 10h33 et on vous retrouve François Claus pour le tour de la question. On évoque Michel Legrand ce matin.
Alors on évoque Michel Legrand avec Philippe Prombi, grand compositeur de musique du film. On n'a pas donné votre palmarès, mais... on n'est pas là pour ça, vous dites. Mais quand même,
on pourrait.
Les films de François Ozon, France, et puis des grands, grands succès populaires, les Ch'tis notamment. Vous avez, comme Michel Legrand, une carte très, très éclectique, Philippe Prombi. Vous avez bien expliqué tout à l'heure, la filiation qu'il y a dans ce domaine si particulier de la musique de film avec Michel Legrand. On parle de son don, de ses qualités. Il y a aussi Patrick Cohen, le bosseur. Il n'arrêtait pas de travailler, de penser. Il vivait, il transpirait, il respirait musique.
Et on va en entendre un exemple. C'est un document assez miraculeux. Michel Legrand était un mélodiste extraordinaire et le document que vous allez entendre, il montre Michel Legrand au travail en train de chercher une mélodie. Il a été confié par Michel Legrand à Stéphane Le Rouge lors de la parution du coffret des Demoiselles de Rochefort pour les 50 ans du film il y a 2 ans. Michel Legrand dit qu'il a eu un peu de mal à trouver les thèmes des Demoiselles parce qu'il est plus à l'aise dans la mélancolie, le drame, la nostalgie, le romantisme. Cette veine mélodique-là lui sort naturellement. Les Parapluies de Cherbourg, c'est un mélodrame. Et il avait composé, évidemment, une heure et demie de musique pour Les Parapluies. Les Demoiselles, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est l'exaltation. Jacques Demy voulait de l'enthousiasme, il voulait un tourbillon d'allégresse dans la musique. Et donc, Michel Legrand se retrouve avec les Alexandrins de Jacques Demy. C'est pas facile.
Parce que le défi était quand même exceptionnel. C'était de faire un film avec les... totalement musical, avec les dialogues, ce qui n'avait jamais été fait
pour Les Parapluies. Mais là, on parle des Demoiselles.
Et ils remettent ça pour Les Demoiselles.
Les Demoiselles, les Alexandrins de Jacques Demy, c'est pas facile à musiquer. Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Tout est en alexandrin. Et donc, il faut casser ça. Jacques Demy est présent. Il a posé un magnétophone sur le piano de Michel Legrand. On est à l'été ou à l'automne 1965. Et donc, Legrand, à partir des phrases de Demy, cherche le thème, cherche l'accroche pour la chanson qui va être la chanson phare du film. Il hésite, il fait des dizaines de versions, c'est absolument fascinant. Écoutez.
Nous sommes deux sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Nous sommes deux sœurs, nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe. Sol, si, do, pa, do, mi, sol, ré, si, la, sol, si, mais sous le signe des
Alors vous pouvez réécouter la totalité parce qu'il y en a une vingtaine de versions sur le site d'Europe 1, hein, Patrick Cohen.
Legrand dit qu'il a fait 30, 40, 50 versions. Il travaille par élimination ensuite et avec Demy, il trouve le... Et parfois, il trouve d'autres mélodies qu'il utilise pour d'autres chansons du film ou pour d'autres films. C'est-à-dire que dans ses essais pour Les Demoiselles, on trouve des mélodies qu'il va utiliser plus tard pour Podane, pour notamment la chanson des insultes de Podane. Philippe Rombie, vous connaissez ce document. C'est absolument
c'est
fascinant de
oui,
voir l'artiste
formidable.
On voit la création là, ce nouer là.
Ça rassure parfois. Viennent...
Oui,
de
non,
voir
mais ceux...
que ça vient pas toujours du
Ceux qui viennent
du
dire que c'est un don et que c'est facile, ben non, c'est aussi
non,
c'est ce travail.
Mais c'est la fontaine à musique en mouvement.
Oui, oui, c'est quand même voilà, ça sort quand même. Voilà, il y a des choses qu'il a préférées, d'autres moins, mais il y a quand même des idées tout le temps qui sont intéressantes. Voilà, c'est vrai que c'est mystérieux la création parce que parfois je suis certain qu'il a trouvé des thèmes du premier coup en 3 minutes et même pas. Parce que c'est comme ça que ça vient, hein. c'est inexplicable. On m'a demandé souvent d'enseigner la composition au conservatoire, mais j'ai pour l'instant refusé parce que je vois pas comment expliquer ça. Ou alors donner des conseils d'orchestration, etc., de dire voilà les corps, attention les cordes, tu pourrais les mettre comme ça, les bois, etc. Mais l'inspiration, je ne sais pas d'où ça vient. C'est quelque chose d'extraordinaire.
C'est ce qu'il a dit pour les Moulins de mon cœur. On lui a montré le film, et il a dit que la mélodie lui était venue comme ça en quelques minutes.
Il va développer du coup un projet qui était totalement bloqué en termes de cinéma. Donc il y a cette magie. En même temps, en entendant ce document, on voit comment il est habité par ce qu'il fait.
C'est bien sûr,
émouvant et très fort.
Et là, il y avait la contrainte, comme que vous disiez tout à l'heure, des paroles aussi. C'est pour ça aussi qu'il a cherché plus, à mon avis. Il n'y aurait pas eu de paroles, ça aurait été plus rapide, à mon avis.
Vous pensez que c'est l'image et le cinéma qui lui a permis finalement de faire la synthèse de ses talents. Il faut rappeler que l'expérience avec Demy est quelque chose d'absolument inédit au cinéma et qui va faire de la comédie musicale un succès en France, parce que ce sera vu par 1 300 000 spectateurs. Bon, les Gendarmes de Saint-Tropez, à la même époque, ils feront plus de 7 millions. Mais quand même, ça fonctionne. Et il y a un héritage aujourd'hui de La La La, Jeanne et le garçon formidable. C'était quand même un pari très gonflé.
Ah oui, c'était novateur à l'époque. C'est vrai qu'ils ont. Ça a été très compliqué pour eux. Je me souviens pour imposer ce projet.
Personne n'en voulait.
Voilà. Je vois très bien. En entendant ces quelques extraits, on voit très bien Michel Legrand sur son piano en train d'essayer de entre guillemets vendre cette idée au producteur avec Jacques Demy en chantant tous les rôles parce qu'en plus sa voix le permettait. Comme je le disais tout à l'heure.
Oui.
Donc il chantait tous les rôles. Je vois très bien la scène. Et puis les gens perplexes. Mais alors tout va être chanté. Tout la moindre mot comme ça. C'est vrai que c'était tellement nouveau Et ils ont eu raison d'insister, d'aller au bout, parce que maintenant, voilà, c'est devenu culte.
C'est devenu culte. Alors, et qu'est-ce que ça a donné à la fin, ces essais au piano? Bah, voilà. Là,
nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de père inconnu, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux...
Ce qui est fou, c'est, et c'est peut-être là finalement aussi qu'on le mesure, c'est comment cela reste dans nos têtes, dans nos mémoires, sur un Paris au départ dont personne ne veut et qui devient finalement un film culte et une musique culte.
C'est la force des thèmes, la force des mélodies qu'il savait trouver. Ce qui était rare aussi, c'est d'avoir un mélodiste qui orchestre aussi et qui crée tout ce qui va autour de la mélodie. Parce que souvent, on a des mélodistes, mais qui confient l'orchestration à quelqu'un après. Il y a des formidables orchestrateurs, mais qui ne sont pas très doués pour les thèmes. Lui, il arrive avec cette force-là, la force à la fois de la mélodie qui se retient et quelque chose de savant autour, et le tout fait ce qu'est Michel Legrand.
Et l'arrangement, oui.
Et l'arrangement.
Eh oui, les deux,
évidemment.
C'est normal, l'un va pas sans l'autre.
Les parapluies, ça a été une aventure absolument folle, et Michel Legrand le raconte bien dans ses mémoires. Personne ne voulait du projet.
Oui, sûr,
il a fallu que Pierre Lazareff, à l'époque patron de François, y croit.
Créateur des 5 colonnes à la Une.
Et créateur des 5 colonnes à la Une. Y croit. Et via sa femme Mac Bodard pour produire et pour débloquer le projet des parapluies qui s'est vraiment fait de façon. Voilà, il avait convaincu Catherine Deneuve, qui avait 18 ans à l'époque, 20 ans au moment du tournage, en lui disant on va faire un opéra, un film opératique. Une chanson de bout en bout du film, mais c'était quand même un projet qui paraissait complètement dingue parce qu'il n'était même pas rattaché à la tradition de la comédie musicale américaine. C'était autre chose. La comédie musicale américaine, ça a été l'inspiration des demoiselles de Rochefort, mais pour les parapluies, c'était un objet absolument original et jamais produit.
Et unique. On a encore d'autres surprises pour vous. Restez bien avec nous parce que...
Restez bien à l'écoute d'Europe 1. Faites-nous part de vos témoignages au 39-21. Dites-nous, que représente-t-il pour vous, Michel Legrand? Qu'est-ce que vous préférez chez lui? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous faire partager? Par exemple, comme Marisiette qui nous a laissé un petit message avec le hashtag Europe 1 sur Twitter et qui nous dit « J'ai eu le bonheur de le voir, Michel Legrand, au Grand Rex avec sa formation pour les 50 ans des Demoiselles. Le plus bel enchantement de ma vie avec Ella Fitzgerald que j'ai entendu. Ça restera toujours au fond du cœur. » Je pense qu'elle voulait dire au fond de mon cœur. Et la musique continuera, l'enchantement aussi. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Twitter, je le rappelle, avec le hashtag Europe 1. Et puis le 39-21, vous nous laissez un petit message et on vous rappelle juste après. Jusqu'à 11h, vous écoutez le tour de la question avec vous, François Claus, et avec vos invités. Philippe Rombier est avec nous, compositeur de musique de film, bien sûr, et le journaliste Patrick Cohen.
Et les auditeurs, parce que voilà, il nous a accompagnés dans nos vies là, depuis un demi-siècle. Et Patrick nous appelle, vous êtes à Sessac, hein, Patrick, c'est ça?
Oui, absolument.
Dans quel département?
C'est le département de l'Aude.
Dans l'Aude, on l'entend peut-être un peu à votre accent un peu rocailleux.
Pas trop.
Alors, vous êtes musicien en attendant, alors, et donc Legrand, ça vous parle?
Ouais, je suis musicien amateur, mais je ne joue que la musique de Michel Legrand. Et donc, j'étais allé le voir un concert avec Stébin il y a presque une dizaine d'années. Hein. Et j'aurais voulu lui parler, c'est mon Dieu, vous comprenez.
Il y a Philippe Rombier en studio qui opine à propos qui se reconnaît peut-être du côté de Pau il y a quoi, une quarantaine d'années, mm-hmm. Philippe Rombier. Allez-y, Patrick.
Alors donc, je suis arrivé à déjouer un peu la sécurité, parce que la sécurité ne voulait pas me laisser passer. Et puis, ça c'est très je me suis trouvé devant lui, je lui ai serré la main avec grand plaisir, et je lui ai dit tout le bien que je pensais de ses musiques. Et il était fort sympathique. Et c'est rare, parce qu'à la fin d'un concert, je dirais que le prestateur, lui, est généralement très fatigué. Lui commençait déjà à être un peu âgé. souvent on est un peu des importuns. Eh bien, pas du tout, on a parlé un bon moment, il m'a demandé quelles étaient les partitions que je préférais. Et puis après, il m'a dit, vous avez quelque chose, hein, je vous donne un autographe. Alors, j'avais amené mon cahier de musique à tout hasard, et il m'a mis un petit message très gentil, et il m'a tracé une portée, et il m'a mis quelques notes dessus. Et j'ai essayé de les déchiffrer, mais... mais bon, non.
Vous mais j'ai été frappé par ce gentil... derrière, mais compliqué. Oui. Mais voilà, c'était à la fois un homme, un génie simple.
Très gentil. Et je crois qu'il était peut-être un peu sévère avec ses musiciens, sans doute. Mais quand on voyait quand il avait affaire à un amateur, quand il avait affaire à... un amoureux de sa musique, il était...
Il partageait, oui, parce que la musique se partage.
Quelle perte.
Oui, mais voilà. Il est là avec nous, avec sa boîte à musique.
Oui,
il ne
nous quittera jamais, absolument.
Merci beaucoup, Patrick, de votre témoignage. Patrick Cohen, vous étiez, vous, à ce qui restera son ultime concert à Paris. C'était dans cette magnifique philharmonie au nord de Paris. J'imagine, là aussi, avec des frissons dans la salle.
À l'auditorium Pierre Boulez, alors ironie évidemment, parce que Michel Legrand a eu des phrases terribles pour la musique de Boulez. Il ne comprenait pas que ça puisse vraiment se jouer et avoir du succès. Et je crois que Boulez lui a dû lui rendre une fois. Enfin bon, bref, peu importe, tout ça était oublié.
Boulez, c'est l'anti-enchanteur, on va dire.
Voilà, on était dans le temple de la musique classique. Et je crois d'ailleurs que c'est la première fois que Michel Legrand donnait à voir à Paris un panorama de ses musiques de film. C'était dans un cadre d'une rétrospective plus large consacrée à la musique de film à la Philharmonie de Paris. Et il y avait donc un grand orchestre, un grand piano aussi. D'ailleurs, je crois qu'au départ, Michel Legrand ne devait pas jouer, il devait se contenter de co-diriger l'orchestre. Et puis, il s'est mis au piano. Et franchement, à 86 ans, c'était quand même une performance de le voir jouer tout ça. Il y avait évidemment une bonne part du cinéma français, de ceux avec qui il avait travaillé. Jean-Paul Rapneau était là, la musique du Sauvage, des Mariés de l'an 2, de La Vie de Château, Pierre Richard, Bertrand Tavernier, tout ce monde pour lui rendre
ceux
hommage.
Qui aurait pu être là, Godard notamment, avec qui il a travaillé aussi.
Effectivement, et puis donc un panorama de ses musiques sur fond d'images, d'un montage de ses films, et c'était extrêmement réussi, notamment pour l'adaptation au rythme des musiques et des orchestrations qui avaient été spécialement faites pour le grand orchestre. Enfin, il y avait des réarrangements.
Vous étiez Philippe Rombier également?
Non, j'étais malheureusement pris par notre Gaulois Astérix dont je composais la musique. Les enregistrements à Londres étaient... Je devais diriger l'orchestre de Londres quelques jours après, donc c'était un petit peu compliqué.
Mais Michel Legrand était très ému. C'était un très grand moment, mais en même temps, il était affaibli. Comme je le disais tout à l'heure, il s'était pas ménagé pendant l'année. Notamment, il avait travaillé d'arrache-pied pour cette musique du film d'Orson Welles. C'est quand même une histoire extraordinaire.
Alors, on va terminer par ça, mais il faut quand même qu'on écoute Patrick. C'est ces mots d'une grande interview qu'il a faite chez vous au mois de septembre. Alors, on va entendre dans la voix qu'il est effectivement un peu diminué, un peu fatigué. Et pourtant, bon, quel moment... vous allez voir, il y a une forme de reflet. C'est que ce court moment, c'était donc sur Europe 1 au mois de septembre dernier. Il vous avait accordé une longue interview avec la sortie donc, de sa biographie et de ce coffret de 20 CD. Il était difficile d'en sortir un extrait, mais voilà ce qu'on a choisi. Écoutez.
You Must Believe in Spring, son dernier enregistrement. Ouais. Le disque paraît après sa mort. Ouais, et c'est bouleversant.
Moi qui l'admirais déjà depuis toujours, on se rencontre, on s'embrasse, on parle, on aime la même personne, on aime la même musique. J'avais une passion pour lui, il m'aimait bien. Et il me dit, Michel, je voudrais que tu m'écrives un concerto. Alors, moi, de l'instant qu'on me demande des choses impossibles, j'ai dit oui tout de suite. Puis il me dit, écris pas trop dur, tu vois, parce que Il avait les mains tout à fait boursouflées. Et puis, il est mort avant que le maître au travail. Et alors j'ai regretté. Je me suis tapé la tête contre les murs. Et puis ça m'a fait une telle peine que... C'est la seule chose, moi, sur Terre, qui me hante, que je n'accepte pas, que je n'accepterai jamais, qui fait que la vie est un martyr. Ce sont les gens qu'on aime qui meurent. On ne peut rien faire. On est là comme des statues de sel devant l'irréparable. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'empêche de vivre.
Voilà, ces mots, et Philippe Rombier, aujourd'hui, évidemment, ça prend une connotation terrible. C'est comme si, finalement, et je vous vois très ému, là, il parlait de nous vis-à-vis de lui, aussi.
Bah oui, oui, c'est ça, c'est un peu... On vit un peu la même chose.
C'est, et en même temps, Patrick, dans ce document, il y a tout ce combat contre la mort, qui est peut-être ça qui l'a fait bouger jusqu'au bout et de créer toujours. Mmh. Et puis ce lien à la musique avec Guillaume.
La musique, il y a aussi l'admiration infinie qu'il avait pour ceux qu'il estimait, pour ceux qu'il jugeait dignes de la musique telle qu'il la rêvait. Il mettait les choses très très haut. Il pouvait être une terreur vis-à-vis de ses musiciens. Tout à l'heure, le dit Patrick, notre auditeur l'a dit. Effectivement, il avait cette forme d'impatience, d'exigence, etc. C'était un perfectionniste, mais aussi un enthousiasme et une admiration sans borne pour les grands musiciens qu'il a côtoyés. Il en parle longuement dans son livre.
Et Philippe Rombie, la trace qu'il va laisser, ben maintenant, elle est indélébile. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui aussi.
Oui, je pense que c'est ça, un grand compositeur, finalement.
Ouais.
C'est de traverser le temps, de donner du bonheur aux gens au-delà de sa présence. C'est ça, je pense.
Et alors, sa présence, c'est là-dessus qu'on va terminer, parce que ce sera peut-être une forme de testament, jusqu'à ce qu'on retrouve aussi d'autres, peut-être, cassettes ici et là, ou d'enregistrements. Mais il y a ce projet absolument incroyable, avec un autre homme complètement envahi par son art, le cinéaste Orson Welles, Patrick Cohen, dont on avait découvert que Orson Welles, quand il tentait de réaliser ce film, avait écrit « Call, appelez Michel Legrand
call
pour
Michel,
la musique ».«
Call Michel Legrand », au moment où le projet de remonter, d'essayer de sortir le film inachevé d'Orson Welles, 45 ans après son tournage a été produit, il y avait le nom de Michel Legrand qui apparaissait. Et donc Michel Legrand s'est jeté à corps perdu dans l'écriture de cette musique. Et pour la première fois de sa vie, Michel Legrand avait à écrire une musique sans le regard et sans l'oreille du metteur en scène. Donc il avait cette responsabilité écrasante de produire la musique d'un film sans avoir le regard et l'oreille du metteur en scène, du
Alors,
cinéaste.
Ce film sera The Other Side of the Wind.
Of the Wind.
Donc, œuvre qu'on Postume. Attend, nous, les cinéphiles, avec tellement d'impatience d'Orson Welles, qui devait être projeté à Cannes, mais qui sera finalement diffusé sur Netflix.
C'est Netflix, oui.
Qui a récupéré, et on entendra Michel Legrand dans une œuvre qu'on ne connaît pas encore.
Enfin, ah bah si,
qu'on
si, connaît si,
pas avec, on la connaît pas avec les images.
On la connaît pas avec les images.
Effectivement, il faudra voir le duo Orson Welles, Michel Legrand, voilà ce qu'on pouvait dire. Alors évidemment, je vous l'ai dit au début, il aurait détesté qu'on dise on fait le tour de la question, donc on n'a pas fait le tour de la question, mais on l'a fait vivre Marlène, voilà ce qu'on pouvait dire sur lui, alors que dans une demi-heure maintenant commenceront les cérémonies à l'église orthodoxe, puis ensuite à Marigny, puis ensuite au cimetière du Père Lachaise. Un grand merci à vous Patrick Cohen d'être venu avec vos CD.
Avec plaisir.
Philippe Rombie, d'avoir su... surmonter l'émotion pour faire partager en tant que musicien à nos auditeurs ce qui était ce talent unique de Michel Legrand. Merci à vous, merci à vous Marlène, merci à vous.
Et on remercie les auditeurs pour les messages aussi qu'ils nous ont laissés. D'ailleurs, il y en a un qui remercie Patrick Cohen pour le document qu'il nous a partagé sur Michel Legrand en pleine création sur le projet des Demoiselles de Rochefort.
Allez, résiste pas, Miles.